Oh là 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 là, quelle performance, Brice, merveilleux, dis donc, 2008, quel grand cru, 29 800 reconduites à la frontière. Alors ça, chapeau, hein. C'est placer la barre un peu haut pour Eric, ton remplaçant, mais Eric, tiens bon, hein. Ton prédécesseur t'a montré la voie à suivre, c'est facile. Alors, malheureusement, hein, les petits vieux à la sortie des écoles, ben, il n'y en a plus, mais j'ai eu une idée en or. Je te suggère les hôpitaux. Je suis sûr qu'en France, il y a dans nos hôpitaux des gens sans papier qui se font soigner, et ça, c'est proprement scandaleux. Donc, c'est facile. Tu vas les chercher directement à l'hôpital. Lit, brancard, charter, la Trinité, c'est génial. Hop, retour à Bamako, tout ça sans protestation, tu parles. C'est pas eux qui vont se débrancher et puis qui vont lutter contre les flics. Hein. Donc ça c'est cadeau, voilà, c'est moi, je te l'offre, c'est cadeau, c'est pour 2009. Et ben voilà, je te suggérerai d'autres choses après. Hein. Pour 2010, c'est les morts. Les morts prennent beaucoup de place si on y réfléchit. Tous ceux qui sont venus mourir depuis leur terre natale pour sauver la patrie française en 14-18, 39-45, ils sont des millions. Donc on les vire, tu les ramènes chez eux, et hop, ça fait de la place pour les petits Français. Voilà, moi je dis, c'est génial. Bonne continuation, félicitations, bravo et vive la France.
Menem Rabé, qui sont les terroristes? Tahayouch, vivre ensemble. Shalom, la paix. Douce pluie d'un automne lointain, les oiseaux sont bleus, bleus, et la terre est en fête. Les oiseaux se sont envolés vers un temps qui ne reviendra pas. Et tu voudrais connaître mon pays et ce qu'il y a entre nous. Ma patrie est une jouissance sous le joug. Mon baiser a été envoyé par la poste. Et je ne requiers de la patrie qui m'a oxy que le mouchoir de ma mère et des raisons de mourir encore. Mahmoud Darwish nous manque beaucoup.
Bonjour. Les Lausannois ne se contentent pas de manifester leur soutien au peuple palestinien mercredi à 17h à la place Saint-François. Certains ouvrent aussi un repère. Il se tiendra jeudi 15 dès 20h au café Le Milan, boulevard de Grancy, juste sous la gare. Soyez les bienvenus. Merci.
Bonjour, c'est Agnès de Lons-le-Saunier du café Repère. Jeudi 15 à 20h30 au bar Le Tiffany chez Albert, rue Rouget de Lille à Lons. Donc, nous aurons un café repère où trois intervenants seront là, notamment un spécialiste de la Palestine qui enseigne depuis plus de 30 ans la géopolitique du Moyen-Orient et qui fait partie également de l'association France-Palestine Solidarité. Une autre intervention avec une dame qui fait partie du collectif de défense des droits et libertés des étrangers et qui nous parlera aussi des centres de rétention administratif. Et une autre personne aussi qui nous parlera du collectif en soutien aux personnes de Tarnac qui s'est monté à Lons-le-Saunier. Ces gens font partie du lycée agricole de Montmoreau. Ensuite, bien sûr, s'en suivra un débat où nous orienterons nos luttes, surtout en vue de la journée du 29 janvier, où nous espérons que ce sera vraiment une journée de lutte importante, où tout le monde sera main dans la main. Donc nous pourrons débattre de tout ça. À bientôt.
Voilà, bonjour, ce sont des Belges, ceux du rattachement pour la Belgique au Congo qui vous appellent pour vous appeler à manifester contre la mort, oui, contre la mort le 25 janvier. Le 25 janvier, on manifestera contre la mort, tout sur le site manifestement.be. Autre manifestation à ne pas manquer, comme ils disent, c'est toute cruauté, est-il bon à dire, une exposition qui entarte la Belgique à la mode, qui coupe la tête au folkloriquement correct, 104 artistes connus ou inattendus, 136 œuvres. Bon ben voilà, c'est à la centrale électrique, et là c'est cruauté, cruauté.be, vous saurez tout, vous verrez tout, le pays qui se décape. Je vous embrasse les Français.
Eh, merci les Belges, hein. C'est poilant cette histoire de manif contre la mort. Ah, bah la mort, c'est pas mal, hein. C'est beau, c'est vrai que on devra en finir avec ça, avec la mort. Hein. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Bon, bonjour à Agnès et aux amis de Lons-le-Saunier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, comme promis, on va en finir avec le capitalisme. D'ailleurs, le capitalisme est déjà mort. Eh oui, on s'en était pas rendu compte, mais il est déjà mort. Nous sommes entrés dans le post-capitalisme. C'est ce que croit Hervé Kempf. Hervé Kempf, on l'a déjà reçu dans La Basse J'y suis pour son livre précédent, Comment les riches ont ruiné la planète. Et là, c'est un nouvel ouvrage tout à fait stimulant, vous allez voir, qui s'intitule « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Voilà, ce mot qui était devenu complètement tabou, refoulé, disparu. Le capitalisme est ressorti et tout le monde est en train de le réformer, de le refonder, d'en finir avec lui et tout ça. C'est quelque chose de tout à fait imprévisible qui est en train de se réaliser en ce moment, à quoi on assiste. Donc, on va pas rester spectateur, on va être acteur de cette révolution jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, je cite le président lors de ses voeux au monde hospitalier. J'ai dit simplement, quel est le budget de la nation qui a augmenté de 50% sur les 10 dernières années compte tenu de la situation économique et financière du pays que l'on connaît? Si je comprends bien notre monarque élu, les agents hospitaliers devraient tout de même culpabiliser un petit peu. En effet, alors que la France n'est pas au mieux de sa forme, financièrement, les hôpitaux ont touché beaucoup de pognon, 50% de plus. Il faut donc lui rappeler à notre empereur Nicolas, star de toutes les ruses, que son budget personnel a augmenté de 240%. Je parle juste de son argent de poche, puisque tout le reste est payé par nous, c'est cert. Pour ce qui est de ses vassaux, les députés, ils se sont alloués 1000% d'augmentation budgétaire, je dis bien 1000%, en s'accordant 60 mois d'indemnité chômage au lieu de 6 mois. De l'ultra-droite à l'ultra-gauche, ils ont tous voté oui à ce projet de Jean-Louis Debré. D'accord, ce dernier n'est peut-être pas l'ami du roi, mais il se sert dans les mêmes poches, les nôtres. Avez-vous noté par ailleurs que si la publicité a disparu des écrans de France Télévisions, c'est toujours Darty qui présente la météo sur France 2. Mais c'est vrai, j'ai oublié, le prince Jean Sarkozy a épousé la fille Darty. Il me semble que de la République des potes à la République des spots, il n'y a pas loin. Alors Daniel, je te le demande, que pourrait-on faire de génial à notre modeste niveau pour faire comprendre à ce locataire de notre palais présidentiel qu'il est tout match? Le premier mercredi de chaque mois à midi, toutes les sirènes de France brillent nos tympans pour nous rappeler qu'elles sont prêtes à nous alerter en cas de danger. Comme il est difficile pour de nombreux Français de quitter leur travail ou leur domicile pour manifester, je leur propose simplement de s'arrêter pendant une minute tous les premiers mercredis du mois. Sortons des bureaux, des immeubles, des maisons, des usines, des hôpitaux, des administrations et restons simplement debout, dehors, pendant les 65 secondes où les sirènes alerteront l'empereur Nicolas de notre contentement à son égard. Ce sera la première manifestation silencieuse bruyante. Ce serait donc dehors le mercredi 4 février à midi. C'était Jean-Marc de Saint-Rémy. À bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Donc ici c'est le Café Repère de Nancy. Nous tenons à vous signaler que ce soir nous nous réunirons au bar Le Royal. Donc ce soir, mercredi 14 janvier à 19h45. Le bar Royal est situé 2 rue Jameret-Duval. Voilà, c'est sur la rue Mont-Désert, juste avant le pont des Fusillés. Les débats, nous parlerons de la privatisation du marché de l'énergie en France, ainsi que du magnifique projet que Poweo compte construire à Toul en 2009. Les amis de la Terre seront là et on espère vous voir nombreux. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Au revoir.
Bonjour, ici le repère de Mougon dans les Deux-Sèvres. Un petit message pour informer donc les AMG du sud de Sèvres que nous nous réunissons tous les troisièmes vendredis du mois à Mougon, au café des Trois Marchands, dans la rue principale de Mougon. Il n'y en a qu'un. Et donc nous nous réunissons vendredi prochain et nous aborderons le thème de la désobéissance civile. Venez nombreux. Merci.
Oui, bonjour Olivier. Je travaille à l'inventaire forestier national. C'est pour dire que tout notre service sera en grève et en manifestation à notre direction générale, à Nogent-sur-Vernisson, ce mercredi. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
Salut, c'est la basse, j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Hervé Kempf pour sauver la planète, sortez du capitalisme.
Flight number 2. arriving from New York.
Le capitalisme est le racket légitime organisé par la classe dominante. C'est pas nous qui disons ça. C'est pas Karl Marx, c'est pas Serge Halimi, c'est Al Capone. C'est Al Capone qui a dit ça, qui a donné cette définition du capitalisme. Et si je regarde la suite dans la page, sur la page 69 de ce livre, il y a une autre définition du capitalisme qui est celle d'Hervé Kempf, que je reçois aujourd'hui à côté de la définition d'Al Capone. Il y a celle d'Hervé Kempf. Que fait Hervé Kempf dans ce livre qui sort ces jours-ci? Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Voilà ce à quoi il nous invite. Nous sauver en nous sortant du capitalisme. Hervé Kempf, je rappelle que vous êtes journaliste. Journaliste au quotidien Le Monde. Et par ailleurs, auteur de bas d'ouvrage, c'est le septième, toujours autour du même sujet, l'écologie politique.
Toujours autour de l'écologie, avec j'avais fait un livre sur l'histoire des OGM, la guerre secrète des OGM, et puis j'avais fait avec mon camarade Jérôme Ecker une incursion à Gaza, en fait, de nombreux reportages à Gaza.
Ah oui, oui, oui.
Et Gaza, la vie en cage, qui racontait la vie quotidienne des Palestiniens.
Alors vous suivez ce qui se passe actuellement, évidemment.
Avec, comme... avec passion, affliction, désarroi, colère, frustration de ne pas y être en tant que journaliste et désolation. Voilà, je peux exprimer que les mots que tous ceux qui sont attentifs à ce drame humain ne peuvent qu'avoir, c'est une désolation. Et désolation, j'allais dire aussi, si je peux me permettre, pour Israël. C'est-à-dire que le grand rêve d'Israël des années 50, 60, s'est transformé maintenant en quelque chose qui est désolant. Ce rêve s'est évanoui.
Ce qui donne encore plus d'importance aux Israéliens qui sont à contre-courant et de la politique de leur pays et de la majorité de leurs concitoyens qui, selon Uri Avneri, qui est un journaliste opposant, on va dire comme ça pour simplifier, et aussi un activiste politique, qui dit les Israéliens se sont auto-intoxiqués. En pensant que c'était, une fois de plus, on les a roulés dans la farine en leur disant que la solution était militaire, ce qu'on sait tous, et ils le savent aussi, eux, et les Palestiniens le savent, que la solution en aucun cas ne peut être militaire. Mais là, c'est un autre sujet qu'on aborde avec votre livre, donc « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Alors, c'est formidable en ce moment, parce qu'il y a une sorte de retour d'un mot refoulé, c'est le mot capitalisme. On n'en parlait plus du tout. C'était le mot qui avait disparu. On voyait même pas de quoi on pouvait parler. Capitalisme, alors c'était un vieux mot d'archaïque qui avait encore, qui rêvait encore de goulag et qui critiquait ce capitalisme. C'était fini. Cette histoire était terminée. C'était réglé. On avait trouvé la solution. Elle s'était d'ailleurs imposée d'elle-même. On l'avait même pas trouvée. On n'avait pas eu à la chercher. Elle s'était imposée d'elle-même. Et puis bon, on connaît cette histoire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la crise financière, c'est-à-dire le crack de cette étape du capitalisme qu'on appelle le néolibéralisme, met tout le monde d'accord sur le constat. Vous le faites aussi, vous, ce constat, un constat d'une sorte de catastrophe à la fois sociale et environnementale.
Alors, je ne le dirais pas exactement dans ces termes. D'une part, je pense que ce qui nous arrive est une bonne chose. Et c'est le paradoxe, c'est-à-dire que si le capitalisme n'était pas entré dans sa crise finale, comme actuellement, nous continuerions à avoir une économie croissant très rapidement et extrêmement destructrice de l'environnement et de l'écologie. Et la crise écologique me paraît avoir une importance plus grande que la crise actuelle de nos systèmes économiques. La crise écologique est le déterminant fondamental structurant de l'époque historique dans laquelle nous vivons. Et donc le paradoxe, c'est un petit peu ce que j'avais suggéré en 2007 dans Comment les riches détruisent la planète, c'est que la crise est une bonne chose parce que si la crise n'était pas arrivée, nous aurions continué comme un train lancé à toute allure vers la destruction de l'environnement. Donc ce qui nous arrive en ce moment est déjà le moyen d'éviter l'aggravation rapide de la dégradation écologique. Deuxième point, si je peux me permettre, il nous faudrait chercher à ne pas l'appeler crise, mais à l'appeler grande transformation. Un peu de la même manière que je reprends le terme de grande transformation du grand économiste Karl Polanyi, qui avait décrit dans son livre difficile mais très important de 1944, qui s'appelait précisément La Grande Transformation, comment en quelque sorte le capitalisme est dans cette définition qui est la marchandisation maximale de l'ensemble des êtres, des biens, jardins, etc., des activités humaines, c'était bâti sur la transformation de l'économie antérieure, médiévale, puis de la Renaissance, etc. D'une certaine manière, nous pouvons voir ce qui nous arrive comme l'occasion d'une grande transformation. La transformation, précisément, de sortie du capitalisme vers une économie qui serait réellement respectueuse de son environnement, qui irait vers plus de justice sociale, et dans lesquelles le principe de l'économie ne serait plus la recherche maximale du profit individuel, mais la recherche de la coopération, de la collectivité, de la solidarité pour atteindre les buts nécessaires de l'activité humaine, mais dans un esprit de coopération entre les gens.
En tout cas, tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est plus possible. Par contre, les solutions, les pistes proposées, les réformes varient tout à fait. Là, vous évoquez un peu votre idée à vous, c'est que vous développez dans ce livre qui est formidable. Il a d'abord le mérite d'être court, très très clair, très concis. Et ça, c'est quand même, c'est pas si fréquent, parce qu'on se tape souvent des pavés chevelus dans lesquels on se perd. Face donc à ce constat unanime que c'est plus possible, hein, les remèdes et les pistes proposées sont quand même très différentes. On a fait quand même un pas par rapport à Madame Thatcher qui disait « il n'y a pas d'alternative ». Là, on est en train de dire « il faut bien trouver des solutions ». Alors, si je prends quelqu'un comme Jean-François Kahn, votre confrère de Marianne, enfin qui n'est plus à Marianne, Marianne et Kahn n'ont pas cessé de dénoncer les effets du néolibéralisme, les effets environnementaux et sociaux. Mais la solution de Kahn, c'est de dire « c'est Bayrou la solution et c'est le modem ». Voilà une solution. Il y a la solution Besancenot, qui est celle traditionnelle, mais qui est renouvelée d'une rupture avec le capitalisme, le nouveau parti anticapitaliste qui va naître ces jours prochains. Il y a la solution Sarkozy, qui est tout changer pour que rien ne change, quoi, en gros, hein, c'est à peu près ça. On va revenir à un capitalisme plus entrepreneurial, on va dégager la finance, la bonne économie, et puis voilà, il faut absolument sauver le capitalisme de lui-même, quoi, en somme, si je résume bien. Donc, c'est à peu près le même constat partout, qui s'est imposé, personne ne peut plus aller à l'encontre de cette évidence maintenant.
Je me permettrai de pas être d'accord avec vous. Malheureusement, ce constat n'est pas le même partout. Le constat de la primauté de la crise écologique est très loin d'avoir pénétré les cerveaux de l'oligarchie et les raisonnements des personnes que vous avez citées. Ça, c'est le premier point. Or, une fois de plus, la donnée structurante de l'époque, c'est la crise écologique. Deuxième point, il n'y a pas unanimité dans la dénonciation du capitalisme. Les oligarques comme Sarkozy ou Michel Rocard, on va le voir, sont dans l'idée qu'il faut conserver le capitalisme. J'ai été l'autre jour à un colloque Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme, organisé par le gouvernement. Il y avait Michel Rocard, ancien socialiste, disons, qui disait...
Ah, plus que ça, c'est un des cofondateurs du PSU, Parti Socialiste Unifié, qui s'est illustré dans les années 60 par des offres politiques tout à fait innovantes. Et puis, c'était aussi l'autogestion. Fin des années 60, autour de 68, Michel Rocard, c'était l'autogestion, c'est ce qui a mené à des grands moments des luttes sociales comme l'IP, etc. Il était la figure de ce mouvement.
Voilà. Et que dit Michel Rocard ? Nous voulons conserver le capitalisme. Que dit M. Sarkozy ? La crise du capitalisme financier n'est pas la crise du capitalisme. Donc, non, tout le monde n'est pas d'accord sur le constat, y compris sur l'économie, même si on laisse l'écologie de côté. Vous avez encore une très large part de l'oligarchie qui considère que ce qui se passe n'est pas une crise systémique de notre système économique, mais est une sorte de maladie, un virus qu'on arriverait à isoler, et puis à partir du moment où...
Et vous, Hervé Kem, vous dites que c'est la crise finale.
Oui, c'est la fin du capitalisme. Voilà, soyons clairs après tout. Ce que je veux dire par là, c'est que le capitalisme est un moment historique. De même qu'il y a eu l'Empire romain, de même qu'il y a eu le Moyen-Âge, de même qu'il y a eu la Renaissance, il y a eu le capitalisme. Une période historique exubérante, très passionnante, avec beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup de qualités, et puis qui arrive comme un organisme épuisé au terme de son rôle, et qui maintenant est incapable de répondre à l'enjeu majeur, une fois de plus, de l'écologie, qui est devenu totalement inefficace. Il est rendu inefficace par la corruption généralisée, une cupidité généralisée, par la destruction des structures collectives, par la déshumanisation progressive qui l'entraîne. Il est épuisé. Il est épuisé dans son idéologie, il est épuisé dans ses effets, il est épuisé dans son fonctionnement. Donc il nous faut penser la sortie du capitalisme, et non pas raisonner en tant que crise finale, parce que le terme de crise finale, c'est un peu, vous avez une crise cardiaque et après vous êtes affaibli, en quelque sorte. Changeons l'idée. Oui. Voilà, on est face à une difficulté, on se transforme.
Crise finale, moi ça me fait penser un peu à lutte finale. Donc il faut dire à Besancenot, arrête, puisque d'après Hervé Kempf, le capitalisme est en train de s'effondrer de lui-même, c'est pas la peine de lutter contre.
Si, parce que l'oligarchie est quand même solidement au poste, on l'a vu avec là les citations qu'on a données, donc il va quand même falloir se bagarrer, et le compte-rendu presque quotidien qu'on fait de toutes les bagarres et de toute la façon dont en France, par exemple, on détruit l'éducation, on détruit le code du travail, on détruit tout ça, et montre que la lutte est absolument essentielle, mais je pense que plutôt que de se penser comme anti-capitaliste, il faut se penser comme post-capitaliste.
C'est à Bernanke de faire quelque chose. Il faut qu'il se bouge le cul. Ça donne une idée du bordel dans lequel on est. Mais Bernanke fait son universitaire à la noix. Mais putain, mais qu'il écoute deux secondes. Il n'a aucune idée du bordel dans lequel on est. Aucune. Aucune merde. Moi, j'ai parlé au patron de quasiment toutes ces boîtes et je peux te dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se prépare. Aucune. Les gens avec lesquels je bosse, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Et ils vont perdre leur boulot et ils vont perdre leur boîte. Il est fou, quoi, merde. Ils sont nuls, nuls à chier. Et la Fed qui se bouge pas le cul, putain.
Ok, du calme. Je sais que c'est un sujet sensible qui vous tient à cœur, mais beaucoup de gens disent qu'il y a un certain type de prêt, d'accord, qu'on ne peut plus faire.
Personne peut obtenir un prêt aujourd'hui s'ils sont pas aussi riches que moi. Qu'ils baissent les taux, c'est tout.
Mais Kramer, c'est la semaine prochaine, on baisse les taux, ce sera la fin du monde.
No, we have Armageddon. Mais on est déjà à la fin du monde.
We have Armageddon.
On est déjà à la fin du monde.
Alors, avant de rentrer dans le post-capitalisme avec Hervé Kempf, voyons un petit peu l'inventaire capitalisme. Inventaire, c'est un des chapitres de votre bouquin. Inventaire avant disparition. Tout disparaît, le capitalisme disparaît. Faisons l'inventaire du cadavre, en somme.
Autopsie du malade. Une chose importante, dans les 30 dernières années, il y a eu un changement de régime du capitalisme. On était, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec les régulations keynésiennes, avec ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, dans un capitalisme qui arrivait à répartir assez équitablement, du fait de luttes sociales extrêmement importantes, mais qui arrivait à répartir assez équitablement les revenus de la croissance, les revenus de la productivité. Et puis à partir des années 80, on voit une explosion. Ce système assez équitable explose et on voit une augmentation très régulière jusqu'à maintenant, et elle continue presque encore maintenant, des inégalités. Schématiquement, un très haut revenu aurait gagné dans les années 60, 50, 70, 30, 40 fois le revenu moyen. Aujourd'hui, on est passé au-delà des 300, 400, parfois plus. Donc là, une explosion des inégalités. Deuxième aspect, une poursuite très importante de la hausse de la productivité. Donc, avec ses bons effets, une augmentation de la richesse, mais c'est une richesse qui est de la transformation matérielle, donc avec des dégâts écologiques toujours plus importants. Troisième chose, la généralisation de la corruption. La corruption, l'économie criminelle, ne sont pas des phénomènes marginaux, sont devenus quasiment au cœur du capitalisme. Et puis, un dernier aspect important, c'est un peu le reflet de tout ce qu'on vient de dire, c'est un gonflement de la bulle financière tout à fait étonnant, c'est-à-dire que un certain nombre d'économistes font le rapport entre l'ensemble des valeurs monétaires qui s'échangent par la bourse ou par sur les marchés financiers à ce qu'on appelle l'économie réelle, au PIB, et cette bulle financière, ce marché financier a pris une expansion absolument démesurée par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle mesurée par le PIB.
Sur la corruption, vous citez Roberto Saviano qui a écrit ce livre qui s'intitule Gomorra sur la mafia, et vous faites un parallèle, c'est lui qui fait ce parallèle entre le système de la mafia et puis le système de l'enrichissement dans le néolibéralisme, mais avec les mêmes principes moraux. C'est-à-dire l'absence de principes moraux, en disant bah oui mais ils sont enrichis, ils sont malins quoi.
C'est le règne de la compétition. Sa citation est très claire. Il décrit la psychologie des parrains des mafieux napolitains qui sont comme des entrepreneurs capitalistes à l'heure actuelle. La compétition. Le seul critère, c'est le succès et l'enrichissement. Et le reste ne compte pas. La société et ceux qui ont d'autres préoccupations que le profit, c'est des ratés.
Avec quand même, ce qu'il faut faire comprendre, ce que vous aviez réussi à faire comprendre dans votre bouquin précédent, Comment les riches détruisent la planète, vous n'êtes pas le seul à essayer de faire comprendre ce que je vais vous demander de nous expliquer à nouveau. C'est comment ces enrichissements et ces minorités, cette minorité qui s'est enrichie d'une façon énorme, le fait au détriment des autres. C'est-à-dire que le gâteau est limité dans sa taille et dans son volume, et que celui qui s'enrichit, ceux qui s'enrichissent, le font au détriment des autres. Alors que la grande réussite idéologique de cette époque du capitalisme que vous pensez abolie, je suis pas sûr personnellement, mais ça c'est autre chose, cette grande réussite a été de nous faire croire et de nous persuader que ces enrichissements, c'était tant mieux pour eux, et même après tout, en s'enrichissant, peut-être augmentait-il la richesse générale ?
D'une part, cet enrichissement au détriment de la collectivité est mesuré par quelque chose d'assez clair, qui est maintenant bien connu par un certain nombre d'études économiques, et la dernière en date, je crois, est de l'OCDE il y a quelques mois, le déplacement de la proportion du produit intérieur brut qui va au capital. Les économistes, ils sont pas marxistes, ils font en gros un partage où quels sont les usages des revenus du PIB entre les salaires et le travail et le capital, profit et investissement. Et en gros, il y a un déplacement de 5 à 10% selon les pays, dans tous les pays occidentaux, de 5 à 10% de la part qui allait des salaires à la part qui va vers les profits. Donc déjà, un prélèvement extrêmement important au détriment des travailleurs. Deuxième chose, j'allais dire, par rapport aux générations futures. C'est-à-dire que cet enrichissement énorme se fait toujours par une consommation matérielle absolument énorme qui est prise sur ce qu'on pourrait appeler, c'est pas vraiment mes termes, mais le capital naturel. C'est-à-dire sur la nature. C'est-à-dire que cet enrichissement énorme se fait au détriment de l'environnement, de la biosphère, donc au détriment des capacités de vie ou de pérennité des sociétés à venir.
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis l'ordre mondial. Par les puissants contre les richesses et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés, car le mal ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, créé par les puissants contre les richesses et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les chefs et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature.
Et avec un autre thème sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne aussi, c'est la mondialisation, ce que vous appelez la mondialisation culturelle, sous son angle culturel, c'est-à-dire comment les modèles qui sont proposés à tous, comment vivre, comment être, comment s'habiller, comment sortir, enfin comment vivre, ce que vous appelez la consommation ostentatoire, voilà, qui semble du bon, ben voilà, c'est les modes de vie aujourd'hui, on copie, on a pour modèle telle ou telle vedette, tel ou tel cadre de vie, envie de voyage, je ne sais quoi, vous parlez longuement du voyage aussi, hein, comme ce qui semble la mondialisation, le lointain à portée de demain, etc. Ce modèle n'est pas sans conséquence.
Au contraire, il a une conséquence énorme. C'est-à-dire, je m'appuie là-dessus sur l'autre grand économiste, un autre grand économiste, Thorstein Veblen, qui avait décrit l'importance des phénomènes de rivalité ostentatoire entre individus sur le comportement de l'ensemble de la société. Très schématiquement, Veblen disait que les individus sont toujours pris dans quasiment toutes les sociétés dans un jeu de course au prestige, de rivalité ostentatoire, qui n'est pas forcément d'ailleurs méchante ou perverse, c'est pas en soi une mauvaise chose, mais voilà, les individus sont un petit peu en compétition pour montrer par certains signes qui sont un petit peu différents de leurs congénères. Et, expliquait Veblen, ils prennent modèle sur la façon de se comporter de manière prestigieuse, d'être chic sur les individus de la couche sociale supérieure, qui eux-mêmes sont en rivalité ostentatoire, et prennent modèle sur les personnes qui sont au-dessus d'eux, etc. Et finalement, expliquait Veblen, les personnes qui sont au sommet de la société, ce qu'il appelait la classe de loisirs, ce que moi j'appelle l'oligarchie, ce qu'on pourrait appeler la classe dominante, les couches dirigeantes, peu importe, définissent par leur comportement le modèle général de comportement de l'ensemble de la société. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut les reproduire, parce que nous n'avons pas évidemment autant d'argent que M. Bolloré ou M. Pinault, mais nous sommes tirés par la façon dont ils vivent pour essayer d'une certaine manière de vivre un peu à leur image, dans la rivalité ostentatoire que nous pouvons avoir avec nos congénères. Alors ça a deux aspects. D'une part, comme vous le rappeliez très bien, c'est que Veblen parlait de la société des États-Unis à la fin du 19e siècle. La nouveauté de notre époque par rapport à Veblen, c'est que ce modèle culturel, par la mondialisation, s'étend maintenant à la planète entière. C'est-à-dire que un jeune Indien, un jeune Chinois, un jeune Nigérien regardera par la télé, notamment et surtout, comment vivent, il saura comment vivent les classes affluentes, l'oligarchie à Paris, à Londres, à New York ou à Beverly Hills, et aspirera à ce modèle de voitures, de bijoux étincelants, de maisons immenses, etc.
Oui.
Et le deuxième aspect aussi, c'est pourquoi c'est important écologiquement et pourquoi l'inégalité joue par ce mécanisme weblénien de la rivalité ostentatoire sur la crise écologique. Eh bien, parce que plus l'inégalité est grande, plus la consommation au sommet est démesurée, on arrive à un gaspillage absolument insensé qui imprègne l'ensemble de la société. Or, si on veut aller vers la prévention de l'aggravation de la crise écologique, sur le principe, c'est assez simple, c'est réduire nos prélèvements sur la biosphère. Réduire nos prélèvements sur la biosphère, dans le principe, c'est assez simple, c'est réduire nos consommations matérielles. Et qui va réduire les consommations matérielles? C'est pas les 1 milliard de personnes qui n'ont pas tout à fait à manger suffisamment tous les jours, c'est même pas les 3 ou 4 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 ou 5 ou 10 dollars par jour. Ça va être les gens qui vivent dans les pays développés et qui projette en ce moment le modèle de consommation idéal. Et ça va être les classes moyennes dans les pays développés. Mais les classes moyennes, c'est-à-dire vraisemblablement nous et la majorité de nos auditeurs, là en ce moment, ils vont pas accepter de réduire leur consommation matérielle s'ils voient toujours Monsieur Bolloré avec son yacht de machin, Monsieur Pinault, enfin je veux pas donner de nom, peu importe, mais tous ces oligarques qui continuent à se goberger. Donc il est absolument essentiel pour que nous acceptions d'aller vers cette réduction de la consommation matérielle, de réduire l'inégalité pour changer le modèle culturel en haut, pour rendre acceptable l'effort commun, et aussi, et très concrètement c'est quelque chose d'important, pour opérer un transfert des richesses, reprendre en quelque sorte cette partie de la richesse qui avait été accaparée par l'oligarchie, pour la rendre au financement des activités utiles et beaucoup moins consommatrices de matières qui sont l'éducation, la santé, la culture, une nouvelle agriculture, des transports en commun, etc.
Est-ce que c'est pas déjà un petit peu en train de changer, si on revient à notre petit hexagone, entre, vous vous souvenez, lors de l'élection de notre actuel président, c'était la richesse décomplexée, je vais saluer mes amis aux Fouquets, je suis la droite bling bling décomplexée, vive l'argent, etc. Il y a cette crise que vous ne voulez pas appeler crise, mais qu'on appelle crise, qui est intervenue. Il y a un peu plus de modestie quand même maintenant. Les bling bling, le bling bling s'éloigne, le mot s'éloigne en même temps.
Ça commence à faire un peu dépassé. dire que d'une certaine manière, oui, il y a une évolution.
C'est un peu obscène.
Ça devient obscène. On n'a plus trop envie de leur ressembler. Et peut-être qu'effectivement, on a là une évolution du modèle culturel. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette oligarchie, qui en plus a failli aussi manifestement dans ce qu'on va appeler la crise, sans problème, non seulement elle se plante, et en plus elle vit d'une manière qui est presque injurieuse à l'égard des gens. Et on n'a plus forcément envie de leur ressembler. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans la foulée de ce livre, j'ai fait beaucoup de discussions à travers la France avec énormément de gens, et j'étais toujours surpris finalement de constater que proposer l'idée de réduire la consommation matérielle ne choquait pas, alors que je m'attendais à être un petit peu quand même attaqué sur ce point-là. Et non, alors c'est vrai que je vais peut-être des auditoires qui sont plus militants, plus attentifs, plus critiques à l'égard de la société telle qu'elle est à l'heure actuelle, mais cette idée passe assez bien. À condition qu'on la sortisse de la nécessité de la justice sociale et de la nécessité de prendre en compte la question écologique.
On dit toujours, et vous êtes spécialiste de l'écologie, que évidemment les pays riches, nous, les États-Unis, etc., ne peuvent en aucun cas être un modèle en matière de consommation. Pour les pays en développement, qu'on appelle de façon très obscène en développement, est-ce que vous voyez dans un bidonville de Bombay en train de militer pour la décroissance?
D'abord, j'emploie pas le terme de décroissance, j'emploie le terme de baisse de la consommation matérielle, ce qui est différent.
D'accord.
Deuxième chose.
Expliquez-nous la différence avant de...
C'est en quelque sorte la décroissance. Enfin, moi, je le vois par rapport au PIB. Il y a tellement d'objections à cette idée que je préfère employer la baisse de la consommation matérielle pour pouvoir dire à ceux qui sont attachés à l'idée de croissance, écoute, si tu diminues ta consommation matérielle, mais que tu augmentes ta consommation de services, d'activités humaines, comme l'éducation, l'agriculture, etc., tu auras toujours le même PIB, tu ne seras pas en décroissance. Mais tu auras moins de matière et plus de biens humains. Exemple très caricatural, si je n'ai plus une Mercedes 400 SE à, je ne sais pas combien ça coûte, mettons 50 000 euros, mais que ces 50 000 euros, je les utilise à financer le poste d'un ou deux instituteurs dans des banlieues ou des quartiers populaires, sur le plan du PIB, j'ai la même chose. Je ne suis pas en décroissance, mais j'ai un usage totalement différent de l'activité humaine. Donc c'est pour ça que je préfère parler de baisse de la consommation matérielle, pour bien dire, ça ne va pas être moins de bien-être.
Ouais,
ça va être
bien. Une
activité orientée différemment, parce que nous avons besoin de moins de biens et de plus de liens.
D'accord. Alors comment vous faites maintenant?
Je ne vais pas faire la leçon au bidonville de Bombay, où je ne connais pas Bombay, mais je connais un peu les bidonvilles de Niamey. Ben, je ne vais pas leur faire la leçon. Je vais dire, écoutez, fini la leçon. Je vais simplement leur dire. Nous, ce qu'on commence à savoir en France, c'est que notre modèle en France ou en Europe, il ne va plus. Donc c'est nous qui avons à changer. Les Indiens et les Nigériens, ils sont très intelligents. Ils vont aussi s'en sortir. Nous, on a notre travail à faire chez nous. Et si on change chez nous, si on change les rapports de force, si on change les rapports de pouvoir, si on commence, nous, à aller vers un autre mode d'être ensemble et d'avoir une économie, ça se répercutera très certainement sur les autres pays du monde.
Je voudrais m'adresser à vous qui me regardez, vous qui doutez des OGM. Vous avez raison. Mais laissez-moi vous expliquer. Sur un champ comme celui-là, un champ où vous avez peut-être connu vos premiers émois amoureux, un champ qui appartient peut-être à un être cher, un champ où vous avez peut-être vu gambader un faon ou une biche heureuse, eh bien ce champ, grâce aux OGM, peut nourrir 50 000 petits Africains orphelins qui pleurent seuls dans la nuit. Vous ne laisserez pas des enfants mourir le ventre vide, n'est-ce pas? Regardez le flambé des prix, du blé et du riz, qui provoque des émeutes de la faim partout dans le monde. Avec des OGM, terminez les émeutes de la faim. Terminez aussi le réchauffement de la planète, rien qu'en achetant des OGM. On pourrait stopper les guerres et faire pousser des fleurs, faire tomber la pluie dans les régions où les gens en manquent cruellement, ou bien au contraire, faire apparaître le soleil là où il est trop rarement présent. Les OGM, c'est l'essence gratuite à vie, c'est la disparition des impôts, de l'interdiction de boire au volant, de fumer dans les lieux publics. Avec un grain de maïs OGM, on pourrait faire revivre votre petit château mort. Grâce aux OGM, vous deviendrez propriétaire de la maison de vos rêves avec piscine. Les enfants ne seront plus obligés de couper la viande et il y aura des frites. Alors, vous écoutez encore ces militants anti-OGM qui veulent vous voir malades et pauvres, qui ne désirent qu'une chose, la disparition de toute vie sur Terre, et qui, au fond d'eux, sont jaloux du bonheur que les OGM vous promettent.
On continue avec Hervé Kempf. Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. C'est clair, c'est net, on ne tourne pas autour du pot. On va droit au but. Et ça fait du bien, parce que depuis le temps qu'on hésite, qu'on propose des petites réformettes timides, etc., la crise, encore une fois avec des guillemets, permet cette audace. Ça fait penser au bouquin des années 70, hein, où on revenait à des utopies. Et c'est vrai qu'en regardant dans le rétroviseur, si toutefois cette époque est aussi dépassée que vous le dites, et que je le crois aussi, mais j'en suis pas si sûr, en regardant un peu ce que nous vivons encore, c'est quand même assez gratiné. Vous revenez sur l'individualisme. Vous avez une métaphore qui est formidable, c'est la poussette et le landau. Vous avez des enfants petits, non, c'est ça?
Non, ils sont plus petits maintenant. Ma dernière a 11 ans.
Racontez-nous la différence entre la poussette et le landau.
J'avais observé ça un peu par hasard dans un musée de Montréal, qui est un très joli musée, le musée McCord, qui raconte la vie quotidienne des habitants de Montréal depuis très longtemps. Et à un endroit, il y a un landau. Alors pour ceux qui ne le savent plus, je rappelle qu'un landau, c'est une sorte de petite voiture à quatre grandes roues dans lesquelles on pose le bébé ou le nourrisson. Et dans le landau, le bébé est tourné vers sa maman ou son papa qui pousse le landau. Et ce même musée propose aussi une poussette. Alors le landau date des années 60 et la poussette date des années 80, je crois. Mmh. Et la poussette, à l'inverse, tout le monde, là, j'explique pas ce que c'est qu'une poussette, évidemment, le papa ou la maman pousse le bébé. Mais le bébé ne voit pas son papa ou sa maman, il est tourné vers l'avant. Et je prends cette métaphore pour dire, on a là l'image d'un renversement de la psychologie collective depuis une trentaine d'années. Et c'est peut-être ce qu'on a oublié de dire quand on a parlé du capitalisme tout à l'heure. Une des choses les plus importantes qu'a réussi à faire le capitalisme dans son changement de régime dans les 30 dernières années, c'est d'avoir changé la psychologie collective au point de nous faire croire que nous sommes des individus, d'avoir dissous les liens encore de solidarité qu'on pouvait avoir dans le fondement de la façon dont la société était faite, et de nous transformer tous et de nous faire croire que nous étions des individus, et de nous faire vivre comme des individus. Et je pense que ce renversement de la position du bébé tourné vers son parent, et donc dans une relation assez intime, dans une communauté, parce que pour le bébé, la première communauté, c'est ses parents, et ensuite, ça sera peut-être la famille, le village, la ville, peu importe. Là, on le projette en tant qu'individu, on le sépare du monde, et on le tourne vers le vaste monde comme s'il était tout seul.
Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de société du tout. C'est ce que pensait Margaret Thatcher. Margaret Thatcher disait « Qui est la société ? Une telle chose n'existe pas. » C'est quand même, les sociologues doivent être un petit peu surpris en entendant une chose pareille. Qui est la société? Une telle chose n'existe pas. Il y a des individus, hommes et femmes, et il y a des familles. Et le gouvernement ne peut rien, sinon à travers les gens, et les gens s'occupent d'abord d'eux-mêmes. La société n'existe pas. Voilà, elle était radicale.
Faut lui reconnaître ça, c'est qu'elle était totalement radicale.
Et Charles Pasqua disait, il manque une Margaret Thatcher à la France.
Oui, alors Sarkozy essaye de faire une vague copie de Margaret Thatcher. Si je peux me permettre, c'est amusant quand même que la France vote toujours un peu à contre-courant. On élit Mitterrand et la gauche en 1981, au moment où il y a Reagan et Margaret Thatcher qui relancent le capitalisme avec cet individualisme et cette marchandisation généralisée. Et nous, on élit la gauche. Et puis, au moment où le système capitaliste est en train de se casser la figure, on élit M. Sarkozy, qui était un adorateur de Reagan, de Bush et de Margaret Thatcher. On est toujours un petit peu à contre-courant.
Face en nombre décombres, pour la première fois, un et un dieu, la spéculation bouge de la raison. Si je ne m'abuse, depuis que le docteur m'abuse, c'est en stock option qu'on fait du poison. Deux et deux vingt dieux, c'est pour du pognon, comme si Tartampion presse son citron. Plus il y a du plus, ça se chiffre à plus, c'est qu'on va tous plus payer leurs astuces. Sommes-nous face au nombril du nombre? Nous sommes chacun face au péril du monde qui se nomme en nombre déforestation, climatisation et inondation. On entend des voix du pareil au même chanter les louanges de la table de multiprivation, de la table des localisations. Que sommes-nous face au nombril du nombre? Que de la surface, un sondage d'ombre. Que sommes-nous face au nombril du nombre? Dans ce face-à-face, ensemble, que sommes-nous face au nombril du nombre? Nous sommes chacun face au péril du monde, à ce qui nous fait face au nombril du nombre, qui fait que les chiffres dépassent les chiffres, qui s'écrivent en lettres bien plus grand que l'être, qui nous dit tout net qu'un jour la planète s'arrêtera net.
Alors, avec, évidemment, tout le monde se dit, oui, il est marrant ce gars-là, mais qu'est-ce qu'il propose, en clair, hein? Qu'est-ce que vous proposez, gros malin? Bien sûr, on sait bien, le capitalisme, ça a plein de défauts, vous venez de les soulever à nouveau, vous les répétez tout le temps, etc. Mais qu'est-ce que vous proposez, en clair? Alors, je vous pose la question.
Eh bien, de poser la question écologique comme absolument centrale et devant presque déterminer notre chemin historique dans les 30 à 40 prochaines années. La génération de maintenant, les 20 à prochaines années, nous avons à trouver le moyen de vivre ensemble sur la planète en étant de plus en plus nombreux, en prévenant l'aggravation de la crise écologique. Ça, c'est la détermination essentielle. Deuxième aspect des choses, limiter la marchandisation généralisée auquel nous conduit le capitalisme. Donc, je ne refuse pas l'économie de marché. L'économie de marché est efficace dans une très certaine mesure, mais elle est cantonnée. Elle est cantonnée et il y a un certain nombre de biens communs, d'activités humaines qui échappent à la détermination du marché et qui reviennent à une gestion du bien commun, une gestion collective. L'éducation, la culture, la santé, un certain nombre de d'activités. Troisième aspect, on se dit après tout le modèle de la recherche du profit maximal par l'entrepreneur n'est pas un modèle très efficace. Et nous pouvons trouver dans les logiques d'économie coopérative, c'est-à-dire du partage des moyens de production, de la détermination collective des membres d'une entreprise, des choix d'investissement et des choix de partage, on a là un modèle économique tout à fait efficace et qui peut être, sinon généralisé, en tout cas largement élargi.
Oui, dans tout ce que vous venez de dire là, à chacune de vos propositions, là, de ces lignes que vous suggérez, ont une histoire. Par exemple, la dernière que vous venez d'évoquer, au 19e siècle, on a eu la construction de ces coopératives, de ces mutuelles, etc. Nos parents y avaient pensé. Enfin, ils ont fait du Kempf avant Kempf.
Oh, mais non. Moi, je suis très, très, très reconnaissant et admiratif. Il faut, au contraire, vous avez tout à fait raison, réexplorer tout ce qu'a fait le mouvement ouvrier au 19e siècle. C'est passionnant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Ça ne veut pas dire que Fourier, que Charles Gide, que les Phalanstères, que Jean Passe, Saint-Simon et toutes ces expériences coopératives et mutualistes, ils avaient trouvé la solution. Mais il y a dans tout ce travail, dans tout le mouvement ouvrier, avant que la chape de plomb marxiste-léniniste et la révolution de 17 écrasent toute la pensée de l'alternative, il y a dans cette construction et cette recherche d'une nouvelle économie, de nouvelles logiques économiques, des choses absolument utiles que nous avons à réinterroger, à réutiliser, non pas dans un esprit « je vais épousseter l'Antiquité », mais voir quand même dans ce qu'on cherchait des gens dans le passé, des choses utiles pour le présent, et en l'articulant avec Internet, avec Wikipédia, avec les logiciels libres, etc. Puis, il y a des choses, ça marche aussi. Il faut regarder l'économie coopérative, ça marche dans une très large mesure.
Exemple.
C'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ça représente dans les pays européens pas loin de 10% du produit intérieur brut. Je pense à Ardelaine, qui est une très jolie boîte qui fabrique des pulls dans l'Ardèche où ils vivent en SCOP, en société coopérative de production. Je pense à Alternative Économique, qui est un journal absolument important qui est en SCOP. Je pense aux Caisses des Jardins au Québec, qui est le premier instrument financier et qui est vécu en coopérative.
Enfin, mais à chaque fois que vous citez ça, on vous dit, oui, d'accord, ça, c'est les petites expériences limitées, qui ne peuvent pas se généraliser, qui peuvent se généraliser ou non.
Mais pourquoi elles ne se généraliseraient pas? Pourquoi est-ce qu'il y aurait toujours le seul modèle? Voilà, il y a le patron, il a du capital, il embauche des gens qui virent quand il veut, et s'il y a un profit à la fin de l'année, il va se le prendre. Pourquoi est-ce que ça serait tellement absurde de se dire, écoutez, on se met en commun, toi tu apportes 5000 euros, toi tu apportes 10 000 euros, on fait un prêt, et puis on va décider ensemble ce qu'on fait chaque année, et on va répartir les profits, ou choisir de les investir ou dans l'amortissement, et puis il y aura un dirigeant d'entreprise mais qui sera élu, et qui sera en discussion avec les employés. Pourquoi est-ce que le modèle de la coopération serait moins efficace et moins réaliste que le modèle de la compétition? Excusez-moi, mais pour l'instant le modèle de la compétition, il est pas vraiment couronné de succès, c'est vous qui employez le terme. Enfin, vous, je veux pas du tout, hein, on discute là. Mais la crise, elle est là. La crise, c'est quand même bien la crise de ce modèle de compétition. C'est quand même bien la crise de ce modèle d'individualisme forcené. C'est quand même bien la crise du modèle de la recherche effrénée du profit. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne... Et puis, d'ailleurs, ça se fait. C'est-à-dire, j'ai tendance à dire, moi, j'aimerais trouver le temps, et puis je travaille dans un journal, j'aurais envie de dire à ce journal, mais... Explorons tout ce qu'on appelle alternative et qui est pas bon. Politis le fait beaucoup. Il parle beaucoup de tous les trucs qui se font, de toutes les entreprises, de toutes les innovations, etc. Les choses existent. Il faudrait qu'il y ait une sorte de conscience commune à tout ça, que tous ceux qui inventent et qui explorent ces voies tout à fait réalistes d'être imbriqués dans la société concrète et réelle.
Soit autant de laboratoires politiques.
Soit autant de laboratoires, mais se mettent ensemble, se mettent en réseau et se disent, ok, toi tu fais ça à Ardelaine, toi tu fais ça à tel endroit, toi tu fais ça à tel endroit. On est ensemble, on va essayer de peser, on va essayer d'inverser la logique générale.
Dans ces alternatives, l'État fait quoi dans votre esprit ?
L'État, il régule, au bon sens du mot, il fixe les règles, éventuellement il aide, il stimule. J'ai pas les chiffres en tête de la quantité d'argent qui est versé chaque année par l'État aux entreprises à l'heure actuelle. Je crois que c'est faramineux, c'est des dizaines de milliards d'euros. Est-ce que sur ces dizaines de milliards d'euros, on pourrait pas en mettre plus pour stimuler ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire? Premier point. Le deuxième chose que fait l'État aussi, c'est parmi les pistes d'alternative, enfin d'évolution du post-capitalisme, il y en a une qu'il faut évoquer quand même, c'est la réduction très forte des inégalités, notamment par le biais d'un revenu maximal admissible et par le biais d'une lutte contre les paradis fiscaux vraiment efficace. Et donc l'État, il garantit dans un État démocratique où les choses sont discutées, sont choisies, sont délibérées, il met aussi en œuvre cette transfert de richesse de ceux qui sont très riches, et puis l'imposition sur l'ensemble des citoyens pour financer des activités utiles, pour soutenir l'éducation, la santé, pour prendre garde aux biens communs, etc. Et puis l'État aussi, de plus en plus, il va être un État international. Il va être de plus en plus, peut-être, un État européen. On a beaucoup de débats sur l'Europe en ce moment. Il s'agit que ce ne soit pas une Europe capitaliste et une Europe de la marchandisation généralisée. Mais sur le fond, l'idée européenne, on est tout à fait pour. Et on sait très bien qu'il y a un très grand nombre de régulations qui doivent se faire au niveau européen. Je prendrai l'exemple du revenu maximal admissible. Wouter Bous, le ministre des Finances néerlandais, pousse beaucoup pour ça, c'est-à-dire un plafond aux rémunérations. Ça serait quand même beaucoup plus simple si plusieurs pays européens se mettaient ensemble pour se dire, bah oui, on va mettre un plafond aux rémunérations des personnes les plus riches. Si on veut faire une lutte contre les paradis fiscaux, c'est pas seulement la France qui va le faire. Il faudra qu'on le fasse avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie, avec l'Espagne. On sera plus fort pour le faire, etc.
Dernière question. Comment fait-on pour que l'État ou les États ou l'État européen fassent ce que vous souhaitez là? Beaucoup de gens sont d'accord avec tout ce que vous dites. Vous souhaitez bien évidemment ça. Comment fait-on pour que l'État, qui n'est jamais qu'un outil, on est bien d'accord, fasse ce que vous souhaitez là? Est-ce que ça passe par une prise du pouvoir, ou bien est-ce que notre bulletin de vote, tous les 3 ans, 5 ans, suffit?
Je ne vous cache pas que je réfléchis beaucoup à la question de la politique, donc je n'ai pas de réponse définitive là-dessus.
Prochain bouquin
Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une réflexion qu'on doit avoir. Je suis attaché, c'est pour ça que j'emploie très systématiquement le terme capitalisme pour bien le distinguer du terme libéralisme. J'ai lu avec beaucoup d'attention et j'aime beaucoup le travail de Jean-Claude Michéa sur sa critique du libéralisme. Mais je pense malgré tout qu'il y a dans le libéralisme politique quelque chose de très fort. Cette idée de la démocratie représentative est très forte. En revanche, il faut que nous revivifions la démocratie. C'est-à-dire que nous introduisions derrière l'idée le peuple élit ses mandants, ses représentants qui vont au nom de la nation ou de l'Europe ou de la planète discuter du bien commun. Mais il faut que nous retrouvions aussi un processus permanent
de contrôle
et de discussion avec ses mandants pour dire, ok, tu es élu, mais c'est pas parce que tu as un mandat pour 3 ans ou pour 5 ans que tu vas faire tout ce que tu veux pendant 5 ans. Reviens, informe-nous, discute avec nous, etc. Donc on a un problème de faire vivre la démocratie au quotidien. Mais fondamentalement, j'ai encore confiance. Notre démocratie est malade. Mais elle est encore là. On est quand même plus en démocratie que chez Monsieur Poutine. Et puis reprenons cet exemple de Wouter Bos que j'aime bien. Je vais creuser encore ce personnage que j'ai entendu l'autre jour au colloque et qui était bien, bien vibrant. Il est ministre, il a été élu. Il est travailliste et il dit des choses qui décoiffent pour un élu. On peut encore avoir confiance dans la démocratie. Et juste un mot pour finir, parce que je sens que le temps est compté. Si Sarkozy a été élu, c'est pas parce qu'il était meilleur. C'est parce que la gauche était faible et ne disait rien de discours vraiment alternatif. Imaginons qu'il y ait une gauche en face de Sarkozy qui dise un petit peu les choses, qui dise là ce qu'on en discute, justice sociale, écologie, coopération.
Oh là, mais c'est révolutionnaire ce Kempf là, il faut finir. Merci Hervé Kempf, je rappelle le titre du bouquin, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Et puis, il a un site, Hervé Kempf, qui est reporter, mais vous écrivez reporter avec terre, T-E-2-R-E, reporter, www.reporter.net, pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Donc, vous avez compris, un bouquin très, très stimulant. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Et sur ces deux sites, vous pouvez faire tous les commentaires que vous souhaitez, que nous attendons toujours avec beaucoup d'intérêt. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Éric Morin, c'est Koyen Guyenne et Raphaël Boutéa qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, et Agnès Lebot, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dont le numéro est 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.